Voilà, donc je vais lire un verset que vous connaissez bien dans Galates 5. Ne le cherchez pas nécessairement, mais bien sûr, parce que vous le connaissez, on va regarder ailleurs par la suite. Dans Galates 5, au verset 16 et 17. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous êtes sous la loi. Cette notion, cette question-là est développée par l'apôtre Paul à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, dans ses écrits. Et c'est quelque chose auquel on est familier, n'est-ce pas? Quelque chose que l'on connaît bien et qui est important, à mon avis, sur lequel il est important de méditer, de réfléchir. Parce que si l'apôtre Paul parle répétitivement de cela, c'est que c'est son message. C'est le message qu'il a reçu et qu'il veut transmettre à ceux qui le lisent ou ceux qui l'entendaient. En fait, c'est le message de Jésus, bien sûr. Sinon, il y aurait un problème, n'est-ce pas? Si l'apôtre Paul commençait à donner un autre évangile que celui de Jésus-Christ, eh bien, l'apôtre Paul a dit lui-même ce qu'il fallait faire. Il a dit, si quelqu'un annonce un autre évangile que celui que nous avons annoncé, eh bien qu'il soit anathème, n'est-ce pas? Et c'est clair sa position là-dessus. Mais donc Jésus et l'apôtre Paul et bien sûr les autres apôtres étaient d'accord sur cet enseignement. Et on retrouve dans Romains 6 et 7 un développement peut-être plus long de cette idée-là. Et dans Romains 6, vous le lirez chez vous, Romains 6, Romains 7, c'est vraiment cette histoire d'être libéré de quelque chose. Il y a dans Romains 6, dans Romains 7, bien sûr dans Romains 8 qu'on a mentionné, parce que les trois vont ensemble. Vous n'avez pas le droit de lire l'un sans l'autre, hein, ça va ensemble, c'est un package obligatoire. Et pas lire le 6 un jour, le 7 le lendemain et le 8 le surlendemain, en disant « j'ai lu un chapitre, ça suffit, par jour », ça se lit en une seule fois. Et ce qui est idéal, c'est de lire les trois chapitres un jour, les trois chapitres le lendemain et les trois chapitres le surlendemain. Comme ça rentre bien dans la tête. Vous avez ça à faire à plusieurs endroits de la Bible, il faut les lire régulièrement. Eh bien, dans Romains 6, il est question de maître et d'esclave, de relation d'un esclave avec son maître. Ce n'est pas mentionné clairement comme ça, c'est moi qui vous le résume de la sorte. Dans Romains 7, il est question au début du chapitre de la métaphore, de l'allégorie du mariage, c'est-à-dire du lien qui existe entre l'homme et la femme. Et dans Romains 6 et dans Romains 7, l'apôtre Paul, tel que je le comprends en tout cas, veut dire la même chose. C'est qu'il y a une unité, il y a une alliance qui existe entre deux entités fondamentales qu'on ne peut pas négliger. Et il la présente sous forme de relation de maître à esclave dans le chapitre 6 et dans la relation d'un couple dans le chapitre 7. Et la relation entre ces deux entités sont, si je peux résumer ainsi, bien que ce soit assez grossier parce que c'est compliqué, eh bien seraient en quelque sorte le corps et l'esprit. Parce que, évidemment, si on est croyant, on n'est pas moniste, c'est-à-dire qu'on ne croit pas que tout est corps, tout est matière. On croit à l'esprit, n'est-ce pas? Et on croit qu'on est corps, âme et esprit, mais on a donc cette dimension spirituelle qui est importante. Et il y a une alliance, à partir du moment où on croit à l'esprit de l'homme, eh bien, il y a une alliance entre corps et esprit, qu'on n'arrive pas toujours à dissocier, n'est-ce pas? Ce n'est pas évident. Mais en tout cas, il y a une alliance qui est parfaite entre les deux. Parfaite dans le sens de indissociable, mais pas parfaite au niveau de la relation. Pas nécessairement parfaite. Malheureusement, il y a beaucoup de couples comme ça. Et il y a beaucoup de relations maître à esclave qui sont comme ça, probablement presque toutes, où il y a une forte alliance, un fort contrat entre les deux, mais il n'y a pas une bonne entente entre les deux. Et le problème, c'est que le corps domine l'esprit de l'homme. C'est-à-dire que je crois qu'à la chute d'Adam et de Ève, eh bien le corps a pris la domination de l'esprit. C'est-à-dire que l'homme non régénéré, la femme non régénérée, eh bien, marche selon son corps, selon ce que dicte le corps. Et l'esprit est soumis à ce corps. En fait, c'est le corps qui dicte les choses que l'esprit doit faire. Parce que l'esprit, c'est ça qui dirige nos comportements, nos œuvres, nos actions, nos pensées, etc. Et c'est le corps qui est le moteur. Vous remarquez que lorsque Adam et Ève ont péché, immédiatement, ils prirent conscience qu'ils étaient nus. C'est-à-dire que immédiatement leur regard s'est porté sur le corps. Ils étaient nus avant, ils n'avaient même pas remarqué. Parce que leurs yeux, leur regard spirituel était ailleurs. Leur regard spirituel était vers Dieu, vers les merveilles de Dieu, de ce que Dieu avait fait, de l'œuvre que Dieu avait faite. Elle n'était pas sur eux, elle n'était pas sur leur corps. Et immédiatement, lorsque le péché est rentré dans l'homme, et le péché qui est rentré, c'était aussi avec la connaissance du bien et du mal, n'est-ce pas ? Eh bien, il est rentré ce dicta du corps. Et on en voit la manifestation sous nos yeux, n'est-ce pas, autour de nous. Et probablement, on peut tous dire combien on a souffert ou combien on souffre par cette vie qui est conduite, cet esprit qui est dominé par le corps, par soi. Et je pense que il y a là véritablement une question qu'on doit se poser. Est-ce que mon esprit est dominé par mon corps? Est-ce que je cherche le plaisir? Est-ce que c'est mon corps qui décide comment je dois vivre? Comment je dois penser? Comment je dois agir? Autrement dit, est-ce que mon corps dicte à mon esprit comment je dois être? Ou est-ce que la relation est autre? Est-ce qu'on connaît quelque chose qui a été libéré et qui est décrit dans Romains 6 et dans Romains 7? Ou dans Romains 8. On a besoin de prendre ça très au sérieux, parce que c'est ça, à mon avis, une vérité spirituelle fondamentale. Et on voit que beaucoup de gens sont, et la société telle qu'elle évolue en Occident, va pointer de plus en plus vers le corps. On va rechercher de plus en plus le bien-être corporel. On va vous proposer des stages, on va vous proposer des formations. On va dire, on va entraîner vos regards de plus en plus vers vous-même, vers votre corps et votre bien-être personnel, votre santé. Et si vous adhérez, si vous commencez à rentrer dans ce système, et on y rentre très facilement parce que c'est notre nature, eh bien, c'est notre vie qui va commencer à être dictée par notre corps. De plus en plus, parce qu'elle l'est de manière naturelle. Alors Dieu devait, à cause de ce péché qui est rentré dans le monde et qui a fait que finalement c'est le corps qui décide, c'est le corps qui fait la loi, Dieu a dû trouver une solution dans l'Ancien Testament. Et il a trouvé la solution excellente, bien sûr, parce qu'elle venait de Dieu, de donner la loi. Et la loi allait rétablir à l'esprit une certaine force, une certaine autorité sur le corps. Parce que la loi de Dieu et la loi morale, et même la loi qui n'est pas de Dieu, mais les lois qui sont instaurées dans les sociétés pour l'équilibre, pour le maintien d'une société, eh bien, elle vient dire au corps, si tu as envie de faire ça, tu ne peux pas le faire. Et l'esprit commence qui a était marqué par la loi, commence à montrer son autorité sur le corps dans certains domaines. Mais bien sûr, c'est une solution imparfaite, et Dieu le savait. Ce n'est pas que Dieu a dit « j'ai pas de solution ». Il savait quelle serait la solution parfaite, mais ce n'était pas encore le temps venu. et il a donné la loi pour que l'esprit puisse prendre autorité sur le corps. Mais le problème, et bien sûr, c'est ce conflit qui existait entre le corps et l'esprit. C'est que le corps avait des désirs et l'esprit avait des désirs contraires. La loi qui était inspirée par Dieu, donc qui était inspirée par l'Esprit de Dieu, avait des désirs contraires. Et combien d'hommes et de femmes vivent dans cette lutte ? Parce qu'ils ont compris quelque chose, ils ont compris que ce n'est pas leur corps qui doit dominer. Ce n'est pas le corps qui doit dicter, j'ai envie de faire ça, donc je le fais. J'ai envie d'avoir du plaisir, donc je le fais, tant pis pour ce que mon esprit pense ou ce que la loi pense, je vais le faire. Alors ils adhèrent à la loi, et la loi vient contrer les envies du corps, et ça fait un conflit dans le couple, n'est-ce pas ? Ça fait une relation qui est difficile, une relation qui est dure à vivre. Et si l'évangile était ça, si l'évangile était de tenir par la loi le corps, alors l'évangile ne serait pas l'évangile, parce que nous serions encore sous la loi dans l'Ancien Testament. Il n'y aurait pas d'évangile, il y aurait la loi qui n'est pas l'évangile. On serait sous la loi. Donc il y a quelque chose qu'il faut découvrir. Il y a quelque chose que les hommes et les femmes qui se disent à Christ doivent vivre, qui est la libération de quelque chose qu'on va voir ici, qui est décrit dans Romains 6, qui est décrit dans Romains 8 aussi. On a besoin qu'il y ait quelque chose qui change. Parce que vous savez que les enfants juifs traditionnels qui sont élevés sous la loi, ils deviennent des bons enfants. Ils deviennent des bons enfants. Ça donne envie en les voyant dire qu'ils sont bons. Ils sont parfaitement, leur corps est parfaitement maîtrisé par la loi. Il y a des enfants de chrétiens qui sont parfaitement maîtrisés par la loi. Ils sont des enfants qui se comportent bien, qui présentent bien, qui choisissent des habits qui sont tout à fait recommandables parce qu'ils ont été bien, la loi a été bien instaurée dans leur vie et leur corps est bien contrôlé par leur esprit. Mais ils sont sous la loi. Ils sont sous la loi et ils ont besoin de connaître l'Évangile. Et on a tous besoin de connaître l'Évangile. Vous avez ceux qui n'ont jamais reçu la loi, qui donc font ce que leur corps dicte à la perfection, c'est-à-dire en fait ils n'ont aucune loi, ils font. Et eux aussi ils ont besoin de connaître l'Évangile. Ils n'ont pas connu la loi et ils ont besoin aussi de connaître l'Évangile. Et l'Évangile est décrit notamment dans Romains 6, 7 et 8. Dans ce passage ou ces passages de Romains, eh bien, il est question de mort. Il est question de quelque chose qui doit mourir. Et ça devient très clair, probablement dans le début du chapitre 7 de Romains, où il dit que l'alliance, il a été question tout à l'heure, effectivement, d'un mariage sérieux qui a été pris avec des résolutions de fidélité jusqu'à la mort. Eh bien, c'est ça le mariage. Et l'apôtre Paul dit que la femme est libérée de cet engagement si le mari meurt. Et il utilise ça pour montrer, je pense, qu'il faut qu'il y ait quelque chose dans cette union qui s'est faite de par notre naissance, de par notre nature. Il faut qu'il y ait quelque chose qui meure. Il faut qu'il y ait la mort. Vous le trouvez dès Romains 6, dès le début de Romains 6, que nous sommes morts avec Christ, n'est-ce pas ? Eh bien, il faut qu'il y ait quelque chose qui meure. Et probablement, dans nos vies, dans nos expériences personnelles, nous manquons de ça. On va dire, le Seigneur m'a sauvé, il m'a rempli de quelque chose, il m'a donné ceci, il a fait ça pour moi, je peux témoigner, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Mais il doit y avoir aussi dans notre témoignage quelque chose qui est de l'ordre de la mort, c'est-à-dire je suis passé par la mort. Et c'est notre esprit qui meurt, ce n'est pas notre corps qui meurt. ce qui doit mourir, pardon. C'est pas notre corps, c'est notre esprit. C'est-à-dire que pour être libre dans cette relation, il faut que notre esprit, qui se soumet à notre corps ou bien qui le domine par la loi, soit mis à mort, pour que l'Esprit de Dieu puisse venir. Et c'est ce dont il est question ici dans ce passage, c'est que Dieu veut donner son Esprit Saint, de sorte à ce que notre corps soit maintenant intimement lié avec l'Esprit de Dieu. Il est dit dans Romains 3, 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 6 et 2 Corinthiens 3, il est question du corps qui est le temple du Saint-Esprit. Et c'est le thème de l'apôtre Paul, c'est la vision évidente de l'apôtre Paul. C'est que dans la Nouvelle Alliance, l'homme n'est pas marié, n'est pas associé à un esprit qui est le sien et qui se soumet au corps, qui se plie et qui se soumet au corps, qui fait sa volonté, ou qui résiste au corps par la loi. Mais l'homme est marié, il est associé à l'Esprit de Dieu. Et c'est quelque chose de merveilleux. Pourquoi c'est quelque chose de merveilleux ? Parce que l'Esprit de Dieu n'a pas besoin d'imposer quoi que ce soit. L'Esprit de Dieu n'est pas la loi. L'Esprit de Dieu n'impose rien. L'Esprit de Dieu est tout puissant. Et sa présence fait que le corps se prosterne et se soumet. Et on n'est plus dans cette relation où le corps domine sur l'esprit ou rentre en conflit avec l'esprit parce que l'esprit ne se laisse pas dominer à cause de la loi. Vous comprenez le principe. Il y a conflit parce que l'esprit ne se laisse pas dominer par le corps. N'est-ce pas ? L'apôtre Paul dit d'ailleurs qu'avant la loi, sans la loi, on est libre. Pourquoi on est libre ? Parce que c'est le corps qui domine, il n'y a pas de conflit. Dans un couple où il y a un des conjoints qui s'écrase et l'autre qui fait toute sa volonté, il n'y a pas de conflit. Parce qu'il y a une soumission totale de l'un et domination totale de l'autre. Mais lorsque la loi est venue, il y a un conflit qui s'établit parce que l'esprit dit non, je ne me soumettrai pas pour ça. Et ça crée des conflits. Tandis que dans la Nouvelle Alliance, il y a l'Esprit de Dieu qui vient inonder notre esprit, qui vient remplacer notre esprit. De sorte à ce que la relation maintenant est entre un corps qui est le même. On reconnaît quelqu'un quand il s'est converti. Il ne doit pas se présenter à nouveau. Et on dit, ah ben, je n'avais pas reconnu. Alors, il y a des fois, alors c'est merveilleux, mais ça, c'est parce que l'Esprit de Dieu a déjà travaillé le corps de manière spectaculaire. Il y a des fois, on ne les reconnaît pas. Parce qu'ils sont tellement transformés, n'est-ce pas ? Mais l'Esprit de Dieu vient inonder. Et vous verrez dans le Nouveau Testament que ce n'est pas seulement être rempli de l'Esprit. C'est être baptisé. C'est-à-dire qu'il y a une relation qui est à deux niveaux. On est plongé dans l'Esprit, baptisé dans l'Esprit. Mais aussi, on est rempli de l'Esprit de Dieu. D'accord ? On est immergé dans l'Esprit et on est immergé par l'Esprit. Et c'est cette relation qui fait que le corps se prosterne devant l'Esprit de Dieu. Et la soumission, elle est naturelle. Parce que devant l'Esprit de Dieu, il n'y a rien d'autre qui peut se faire. Quand l'Esprit de Dieu agit avec puissance, il n'y a rien d'autre qui peut se faire que de se soumettre par amour et juste par admiration. Et c'est ça la relation que Dieu veut. C'est ça la relation, c'est ça l'alliance que Dieu veut. C'est que le corps soit totalement soumis, mais pas par contrainte, pas par conflit, mais par amour, par cette alliance avec le Saint-Esprit. Vous savez que Jésus, il est dit de Jésus dans Hébreux que lorsqu'il est devenu dans le monde, il a dit à son Père, « Tu m'as donné un corps, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Son corps était juste prosterné devant Dieu. Son corps était juste au service du Saint-Esprit. Son corps était parfaitement le temple du Saint-Esprit, au service du Saint-Esprit. Et c'est ça qui fait la différence et c'est ça qui rend libre. C'est pour ça que Jésus a pu dire que si vous Vous connaîtrez le Fils et le Fils vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Parce que c'est ça la vérité, c'est ça l'évangile. Il y a des gens qui ont peur. Encore une fois, je le dis, mais c'est tellement triste qu'ils ont peur du Saint-Esprit. Mais comment peut-on avoir peur du Saint-Esprit? Quand le Saint-Esprit veut libérer, quand l'Esprit veut donner, on va voir, je voudrais voir avec vous rapidement encore un passage qu'on connaît, qui est l'œuvre de l'Esprit. Et cette fois-ci, ce n'est pas le fruit de l'Esprit. Mais ne l'oubliez pas, hein, lisez-le aussi, mais ce n'est pas le fruit de l'Esprit qu'on va voir. Parce qu'il y en a tellement dans la Bible qu'on peut trouver, n'est-ce pas? Toujours la même idée, mais avec d'autres illustrations. Mais l'œuvre de l'Esprit, c'est une œuvre rédemptrice, c'est une œuvre qui libère, qui donne aux hommes et aux femmes une dignité merveilleuse. Et c'est ça dont il est question. C'est mentionné dans Romains 8 que c'est ça qui permet d'être libéré de ce conflit. Et c'est ça l'Évangile. Oh, combien d'hommes et de femmes dans les milieux chrétiens restent sous la loi. Ils restent sous la loi dans une domination parfaite de leur corps. Comme les Juifs peuvent le faire, comme les légionnaires peuvent le faire. Si vous voulez un exemple de quelqu'un qui contrôle son corps, dans le contexte de l'armée seulement, eh bien vous prenez un légionnaire. Vous allez voir qu'il va obéir au moindre ordre d'un supérieur. Le moindre ordre d'un supérieur sera exécuté. Si le supérieur lui dit « lèche la poussière », il va se mettre par terre, il va lécher la poussière. Si le supérieur lui dit « va te faire tuer, l'ennemi est en train de tirer, vas-y, fonce », eh bien il va foncer. Mais c'est parce qu'il a la loi, c'est parce qu'il est sous la loi. Il n'est pas libre, il n'a pas donné sa vie à l'Esprit de Dieu, et c'est seulement le moyen pour vivre la liberté et vivre l'Évangile. C'est d'être non pas sous la loi, mais d'être sous la grâce que l'Évangile ou l'apôtre Paul appelle la grâce, qui est cette union avec le Saint-Esprit. Et j'aimerais qu'on regarde un passage qu'on connaît bien aussi, qui est dans Luc 4, qui concerne l'œuvre de Jésus. Il commence en citant il lit le prophète Ésaïe, Ésaïe 61. Et il lit le passage. Et ensuite, il va s'asseoir. Ça, c'est dans la synagogue à Nazareth, là où il est connu, il a grandi là. Et il va s'asseoir. Et les gens ne sont pas satisfaits qu'il a seulement lu. Ils attendent qu'il dise quelque chose. Donc, il va prendre la parole à nouveau. Il n'allait pas parler, semble-t-il, mais il va leur dire quelque chose. Et il est dit au verset 21, au 22, et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Pour sa bouche, c'est son corps. Et ce qui sort de son corps, c'est la grâce. Mais c'est normal, parce qu'il était parfaitement uni avec le Saint-Esprit. Et ce qui sort de sa bouche, c'est la grâce. Et ça étonne. Ça étonne le monde quand il y a la grâce, quand il y a l'amour qui sort, quand on est victime d'injustice et il y a le pardon qui sort. Si ce n'est pas le cas, et ça peut ne pas être le cas dans nos vies, mais il doit y avoir immédiatement une repentance. Et dire, Seigneur, je veux connaître ce que Jésus connaissait. Cette relation parfaite entre son corps et le Saint-Esprit. Pour que ce qui sort de moi soit la grâce. C'est la même chose dans les réactions. C'est la même chose dans les pensées. C'est la même chose dans tous les gestes, les actes que l'on peut faire. Ça doit être le Saint-Esprit qui se manifeste. Parce que le corps est au service volontiers, volontaire, du Saint-Esprit. Mais quelle était cette parole qu'il a lue? Eh bien, il a lu sa mission, son ordre de mission. Quand il a dit, Je suis venu dans le monde, tu m'as donné un corps pour faire ta volonté, ô Dieu. Quelle était la volonté de Dieu? Eh bien, la volonté de Dieu, il l'a lu en quelques lignes. C'est pas un long texte, la volonté de Dieu pour votre vie. C'est pas donné de manière légaliste. Il faut que tu fasses ça. Donc, vous n'êtes pas à dire, bon, il faut que je fasse ça. C'est que c'est devenu naturel pour son corps d'accomplir les désirs de l'esprit. Et rappelez-vous ce qu'on a lu dans Galates 5. Le corps, la chair, a des désirs contraires à ceux de l'esprit, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais lorsque le Saint-Esprit vient, lorsque l'on marche selon l'esprit, eh bien il y a une harmonie parfaite, il y a une union parfaite qui se fait, et le corps se plie tout à fait à l'Esprit de Dieu. Alors avant de voir très rapidement, et vous le connaissez déjà, l'ordre de mission de Jésus sur la terre, je voudrais qu'on voit le contexte du moment où il a lu, en tout cas tel que Luc le décrit. Il décrit d'abord la tentation de Jésus dans le désert, dans Luc 4, c'est ça que vous trouvez au début du chapitre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien le diable, à trois reprises, a essayé de tourner les yeux de Jésus vers son corps. Il a essayé de faire l'œuvre qu'il avait fait dans le jardin d'Éden. Il a essayé de faire en sorte que Jésus prenne conscience de l'importance, entre guillemets, de son corps. Il y avait l'histoire du fait que Jésus avait faim. Il lui a dit, ordonne à ces pierres de se transformer en pain. Il y avait l'histoire de le mettre en haut du temple en disant, jette-toi, suicide-toi. Jette-toi en bas. Et il y avait l'histoire des richesses, n'est-ce pas, de ce qui fait du bien au corps, qui libère des substances chimiques au niveau du cerveau qui font qu'on se sent bien. Si vous apprenez en rentrant chez vous que vous avez hérité de quelques millions d'euros, il y a une substance chimique qui va immédiatement se libérer au niveau du cerveau et vous allez vous sentir très très bien. Si on vous rencontre dans la rue, vous allez être très très chaleureux, très jovial, très heureux de vivre. Après, les soucis viennent. Ça, je vous assure. Mais je ne sais pas. Je n'ai jamais gagné un million d'euros ou des millions d'euros. Mais je veux dire, d'après ce que j'ai vu, les problèmes arrivent après. Mais voilà, le diable a essayé d'utiliser le corps. Et Jésus a résisté. Et Jésus était vainqueur. Et c'est pour ça qu'il a pu dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Et la mission du Saint-Esprit pour le corps, c'est une mission extraordinaire. Parce que l'œuvre du Saint-Esprit au travers du corps de Jésus et au travers du corps des croyants, se fait d'abord dans le corps du croyant. C'est-à-dire que lorsque l'Esprit de Dieu vient, il n'est pas un maître qui va dicter au corps en disant « maintenant, ça, c'est moi qui commande, tu vas faire ». Ça, c'est le corps qui faisait ça avec l'esprit. Le corps disait « j'ai envie de ça, donc je vais nourrir mes pensées ». Mes comportements vont me permettre de réaliser ce dont j'ai envie. Mais ici, il y a guérison. Il y a le soin. Il y a l'amour qui est manifesté. Parce qu'on trouve au verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Et quand vous venez à Christ, l'Esprit de Dieu, quand on vient vraiment à Christ et l'Esprit de Dieu nous remplit, eh bien, il annonce une bonne nouvelle à notre corps. Il annonce une bonne nouvelle à ceux qui sont pauvres. Et on commence, comme Jésus le faisait, à annoncer des bonnes nouvelles à ceux qui sont pauvres. Il commence à faire ça, mais il vient aussi, il a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il va guérir les cœurs brisés. C'est l'œuvre de l'Esprit dans nos propres vies. Mais c'est aussi l'œuvre de l'Esprit au travers de notre corps vis-à-vis des autres. Est-ce que quand quelqu'un a un cœur brisé, on a ces paroles, ces actes qui vont consoler? Est-ce que quand quelqu'un a fait quelque chose, on est du style à lui dire « c'est grave, c'est mal » ou est-ce qu'on est dans le style à lui dire « c'est pas grave » ? Oh, ça choque. Quand quelqu'un a péché, on ne doit pas dire « c'est pas grave ». C'est le cœur, c'est l'attitude qui dit que Jésus peut pardonner. C'est pas qu'on dit que l'acte n'était pas grave, l'acte est grave, mais tu as la possibilité d'être pardonné. Il y a la grâce. Ton cœur brisé peut être guéri. Ton cœur meurtri peut être réparé, peut être soigné par l'Esprit de Dieu. Et c'est ces paroles-là données au monde. C'est ça que le monde recherche. Si, à l'occasion de Ville ouverte, on a l'occasion, et ça doit être l'objectif de nos prières, de dire « Seigneur, cette année, mets sur mon passage quelqu'un qui a le cœur brisé, quelqu'un qui est pauvre, quelqu'un qui est opprimé, parce qu'on va voir ça, quelqu'un qui est aveugle, pas forcément physiquement, mais qui est aveugle, parce qu'il ne peut plus voir les choses telles qu'on devrait les voir. Mets cette personne sur mon passage et qu'avec l'Esprit Saint, mon corps puisse être utilisé pour porter ce message de l'Évangile. Ce message qui est là décrit en très peu de versets dans Luc 4 et dans Ésaïe 61. Si c'est là véritablement, eh bien, votre prière, Dieu va vous mettre des gens. Bien sûr, il ne faut pas rater le coup. Il ne faut pas dire, ah, après, quand c'est trop tard, ah, mais c'était peut-être. Il ne faut pas comme un devoir, mais avec amour, aller avec la compassion, aller vers ces personnes. Ou si vous voyez un alcoolique, est-ce que vous allez lui dire, bah, c'est sa faute, il picole trop. Ou est-ce que vous allez avoir le cœur touché. Est-ce que vous allez avoir le cœur ému? Parce que s'il boit, c'est pas parce qu'il est alcoolique. Ça n'a aucun sens de dire que quelqu'un boit parce qu'il est alcoolique. C'est tourner en rond. Et pourquoi il est alcoolique? Parce qu'il boit. On s'en sort pas. C'est absurde. S'il boit, c'est parce qu'il a une détresse dans son cœur. C'est parce qu'il a une soif dans son cœur. Et si vous voyez ça dans la vie des hommes et des femmes, vous allez vous approcher. Et ce que vous allez leur sortir, c'est des paroles de grâce, des paroles de libération. C'est ça qu'ils ont besoin d'entendre. Ils ont entendu la loi, tu ne boiras pas, tu ne boiras pas. Ils peuvent vous la réciter. Ils peuvent vous dire tous les dégâts que ça fait sur le corps. Ils peuvent dire, j'ai essayé plein de fois d'arrêter. Ce n'est pas la loi dont ils ont besoin. C'est la grâce, c'est l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu ne peut se manifester au travers de nos paroles, au travers de notre corps, que si il y a eu mort de notre esprit. Et l'Esprit a été mis à mort avec Christ pour être rempli de l'Esprit de Dieu. Et c'est là qu'on va pouvoir donner. C'est là où on va pouvoir pleurer avec ceux qui pleurent. Je me rappelle que ce vieux frère qui venait là de Birmingham, Wilfred, il est venu au Seigneur tardivement dans la vie, tardivement. Et il a été transformé par le Saint-Esprit. Et cet homme, il avait un amour pour les jeunes. Et quand il voyait des drogués dans la rue, des toxicomanes en Angleterre, et on les voit plus facilement dans la rue, peut-être qu'en France, eh bien il les serrait dans les bras. C'est ça l'Évangile. C'est pas leur dire, vous ferez mieux de rentrer chez vous, trouver un travail et être utile à la société. C'est leur montrer l'amour. On sait que la drogue, c'est grave. Mais quand on leur montre l'amour, ils ont le message de bénignité, n'est-ce pas, qui est un constituant du fruit de l'esprit. On n'arrive pas à s'en passer, hein, du fruit. On est obligé d'y revenir. Qui vient, qui lui dit, c'est pas grave. Si moi, j'avais été à ta place, j'aurais fait la même chose. C'est comme ça que l'on doit voir le monde. C'est comme ça qu'on doit agir avec le monde. C'est comme ça que Jésus agissait avec le monde. Au point que Jésus pouvait aimer les prostituées. Je voulais parler de Marie, de Béthanie, cet amour qu'elle avait pour Jésus, parce que son corps, à elle, avait vu le Saint-Esprit dans Jésus, elle se prosternait, elle répandait des larmes, et elle se mettait aux pieds de Jésus, et elle était là pour le servir. Sa sœur n'avait pas compris ça. Sa sœur était légaliste. Jésus, il l'a invité chez nous, il faut lui faire à manger. Et un bon repas, parce que c'est quand même le grand rabbi, Jésus, il faut lui faire un bon repas. Donc elle s'active, elle s'énerve. Ça, c'est la loi. Mais sa sœur avait compris la grâce. Sa sœur avait choisi la seule chose qui compte, c'était d'être assis aux pieds de Jésus. Ça, c'est un corps qui a été touché par le Saint-Esprit. Un corps qui est rempli du Saint-Esprit. Oh, elle n'a pas connu la Pentecôte. Peut-être elle l'a connu plus tard, mais à ce moment, elle ne l'avait pas connu. Mais elle avait déjà le Saint-Esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit de Dieu fait qu'on se prosterne devant Jésus, devant Dieu, et on fait sa volonté. On fait sa volonté sans qu'il nous le dise. Il n'a pas dit à Marie, tu vas mettre du parfum sur mes pieds, tu vas me revêtir de parfum pour ma sépulture. S'il l'avait dit, elle aurait obéi. Mais il n'a pas eu besoin de le faire. Elle l'a fait. Elle ne savait pas plus que les autres qu'il allait mourir. Elle n'avait pas plus compris, je pense, que les autres qu'il allait mourir. Mais elle l'a fait parce qu'elle était conduite par l'Esprit de Dieu. Et c'est ça qu'on doit connaître. C'est ça qu'on doit désirer dans nos vies. De sorte à ce que dans l'Église, il puisse s'ajouter des gens qui auront été libérés parce qu'ils ont rencontré Jésus. Mais avant de rencontrer Jésus, ils vous auront rencontré. Et ils n'auront pas vu la différence entre vous et Jésus quand ils entendront parler de Jésus après. Ils auront dit, mais il a agi, elle a agi, juste comme Jésus aurait agi. Que Dieu nous aide, que Dieu nous travaille, que Dieu me travaille premièrement, pour que ce soit comme cela notre vie. Et c'est ça l'Évangile, c'est ça le Nouveau Testament. Sinon, eh bien, on est toujours dans l'Ancien Testament. On est comme les Juifs, qui sont ceux qui sont restés. Il y a des Juifs, bien sûr, qui sont attachés au Saint-Esprit. Que Dieu donc nous aide et nous travaille. Voilà, on va prier pour terminer. Seigneur, nous voulons te louer pour l'Évangile, pour la Nouvelle Alliance. Seigneur, parce que tu nous libères. Pas de notre corps, nous avons toujours un corps, le même qu'avant. Mais Seigneur, le corps ne dicte plus à l'esprit ce qu'il doit faire. Et le corps n'est plus brimé par l'esprit qui est influencé par la loi et qui lui dit de ne pas faire ceci. Mais Seigneur, tu nous libères en donnant cette communion, cette rencontre avec le Saint-Esprit. Et cette union entre un corps humain et le Saint-Esprit de Dieu nous permet de vivre la vie, Seigneur, de Jésus, comme Jésus sur la terre. Nous savons que Jésus était Dieu, quelque chose que nous ne pouvons et que nous ne pourrons jamais être. Mais Seigneur, tu veux nous rendre capables de vivre et de mener cette vie que Jésus menait. Et Seigneur, par ton esprit, nous voulons le vivre. Par ton esprit, je veux le vivre. Et que Seigneur, il en soit ainsi. Amen.